Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Délivrez-vous pour ces deux ailes. Pour un sujet qui, je l'avoue, me tient à cœur et sans nul doute que vous aussi. Ce sont des événements qui sont passés il y a quelques années. Vous vous souvenez, le printemps arabe, la révolution arabe, le printemps du peuple, dirais-je, en Tunisie, où un besoin de liberté, de démocratie, de pouvoir penser librement, d'agir librement. Et puis, on s'est dit qu'enfin, peut-être ce peuple allait pouvoir enfin s'assumer, pouvoir vivre en liberté. Et on va s'apercevoir avec mon invité, le livre d'aujourd'hui, que finalement, les tréfonds de l'histoire, les coulisses ne sont pas aussi simples et surtout aussi faciles que l'on peut le penser. Et que finalement, aujourd'hui, entre l'ombre et la lumière, y avait-il un juste milieu? En tout cas, c'est un livre passionnant, instructif, avec un homme érudit qui connaît bien son sujet et qui va nous en parler, je suis sûre, avec passion et justesse. Bonjour Saber Mansouri.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour votre dernier ouvrage Un printemps sans le peuple aux éditions Passé Composé. Alors, tout d'abord, qui est Saber Mansouri?
Alors, Saber Mansouri est un écrivain qui est né en Tunisie.
Oui.
Écrivain de formation, formation d'historien.
Oui.
J'ai fait une thèse doctorat en histoire grecque sur la notion de travail et de citoyenneté à Athènes au IVe siècle avant Jésus-Christ sous la direction de Pierre Villanaké.
Oui.
Et le destin m'a conduit aujourd'hui à l'écriture. L'écriture romanesque et l'écriture des essais.
Bien, pour notre plus grand plaisir, en tout cas, voilà. De quelle région de Tunisie êtes-vous ici?
Je suis du nord-ouest de la Tunisie, une région qui les Romains appelaient à l'époque le grenier de Rome,
ouais.
Avec des plaines fertiles.
Ouais. Pouvez-vous nous citer une ville en particulier?
Moi, je suis né vraiment dans un hameau qui s'appelle la Colline Rouge.
Ouais.
Et en fait, l'endroit le plus urbanisé proche s'appelle Nefza.
Mm-hmm.
Il se situe entre Tabarka,
d'accord.
Une petite station
je connais bien.
Et Béja.
D'accord, ok. Eh bien voilà, sans doute que nos auditrices et auditeurs connaissent aussi bien la Tunisie, peut-être plus faire Djerba ou pas El Kantaoui, Tozeur, Nefta, Sousse, des villes magnifiques. Et un pays magnifique avec des habitants où l'accueil a toujours été très chaleureux. Alors, votre titre, Un printemps sans le peuple, ça m'a interpellée avant de commencer la lecture parce que je me suis replongée donc dans les événements de l'époque. Et au travers de votre livre, j'ai senti une forme, pas d'amertume, mais de colère, d'incompréhension. Est-ce que finalement, aujourd'hui, ce printemps sans le peuple, est-ce que la démocratie est vraiment installée en Tunisie? Est-ce que le peuple a obtenu ce pour quoi il s'est battu?
Sincèrement, non, parce que je suis convaincu que cette révolution, entre guillemets, a été fait sans lui, et la situation actuelle du pays est vraiment une situation catastrophique, je veux dire la situation sociale, économique, la situation de l'école aussi. Je vous donne un exemple, les jeunes tunisiens, je parle pas de la haute bourgeoisie bien évidemment, mais la majorité des jeunes tunisiens ne rêvent que d'une chose,
partir.
C'est de partir à bord d'une barque qui tangue, rejoindre l'Europe. Et donc, pour ma part, j'ai toujours dit et écrit qu'un pays qui n'estime pas les siens, c'est-à-dire sa jeunesse, l'école, etc., n'en est pas digne de cette révolution, de cette démocratie, de ce miracle politique, en fait.
Bien sûr.
Je dois dire que, étant moi-même issu de ce peuple, d'origine modeste, donc ce peuple m'a véritablement donné à vivre. Aujourd'hui, il me donne à penser. et non pas dans la colère, parce que la colère n'est pas bonne,
c'est pas constructif,
bonne conseillère dans
ouais.
l'écriture, mais j'ai mis pratiquement 10 ans pour écrire ce livre, donc c'est
ah
pas
oui.
un livre à réaction,
mm-hmm.
parce que j'étais persuadé que écrire dans l'urgence, écrire sous la contrainte de la ce qu'on appelle l'actualité,
oui.
ne donne absolument rien d'intéressant, finalement.
C'était pas constructif.
Non, pas du tout, parce que je considère que tous les livres qui ont été écrits dans l'urgence sur le printemps arabe sont sincèrement arrangés dans des
ouais.
cartons.
Ouais. Au fond d'un grenier, oui.
Mmh. Donc, c'est marrant, parce que je me rappelle avoir écrit, avoir postfacé le premier livre, d'ailleurs, qui a été publié sur la Tunisie, la révolution tunisienne.
Ouais.
Et avec un peu de distance, en discutant aujourd'hui avec l'auteur, je lui dis sincèrement, je ne change aucune ligne de cette postface, parce que si vous voulez, les événements de 2011, c'est-à-dire après le départ de Ben Ali,
ouais.
et toute la décennie qui a suivi, il n'y a eu aucun travail de mémoire, aucun travail de justice, c'est-à-dire qu'on continue de gouverner avec l'ancien monde,
mm-hmm.
qu'on continue de gouverner avec les anciens notables,
mm-hmm.
et en fait qu'on continue de gouverner à côté du peuple, mm-hmm. voire contre lui.
C'est ce que j'allais dire. C'est ce que, moi, tout au long de votre livre, c'est ce que j'ai l'impression, que ce printemps, cette révolution s'est faite contre le peuple et non pas pour le peuple. On a le sentiment que ça a servi des intérêts, mais des intérêts propres d'une certaine élite au détriment du peuple.
Oui, bien évidemment. Et en plus, il y a autre chose aussi, je l'écris dans le livre, c'est la déstabilisation de la Libye,
oui.
Si vous voulez,
oui.
N'était pas... Une excellente idée, parce qu'il faut savoir que la Libye...
Créer un équilibre dans la région.
...de 2011 mmh. était vraiment je dirais que un poumon pour la Tunisie.
Il faut
Bien savoir
sûr.
Que
tout à fait.
Beaucoup de Tunisiens allaient travailler
en Libye.
En Libye.
Mmh.
Et puis, j'ai appris à comprendre l'histoire, à écrire l'histoire en regardant une carte. Donc, et puis il y a un proverbe arabe qui dit « Choisis ton voisin avant de faire bâtir ta maison. »
Ta maison, je le connais.
Donc,
c'est très vrai, hein, cela dit.
Oui, mais je pense que la mise à mort de Kadhafi et la déstabilisation de la Libye, si vous voulez, a coupé les ailes de cet élan révolutionnaire tunisien.
Mais on avait l'impression aussi, en lisant votre livre, c'est un peu le sentiment que j'ai eu, mais si je me réfère un petit peu à ce que j'ai observé il y a 10 ans, parce que comme beaucoup, j'ai suivi ça de près, parce que quelque part, ça nous touchait. Pour moi, c'est un pays frère, hein, comme le Maroc. Je me suis dit, finalement... Bon, Ben Ali est parti, bon ok, il est parti, la Libye, Kadhafi aussi, mais je n'irais pas jusqu'à dire que c'était mieux qu'il reste, parce que finalement, il fallait qu'il parte, mais la différence, elle est où? Parce que finalement, ça a déstabilisé toute une région, et ça n'a rien arrangé, et je dirais bien au contraire.
Non, pas du tout, mais pas du tout, c'est parce que ce qui est... Ce qui est curieux dans cette affaire, c'est ça aussi qui m'a intéressé, c'est le fait que les Arabes auraient fait une révolution sans l'avoir nommée dans leur propre langue.
Mm-hmm.
Si vous voulez, c'est d'une tristesse inouïe.
Oui.
Après, on peut toujours discuter sur qu'est-ce qui est plus vertueux, faire ou dire. Après tout, les Grecs, enfin les Athéniens, ont pratiqué la démocratie. Ils l'ont fait advenir sur la pensée.
Mmh.
Mais pour revenir au cas de la Tunisie, oui, Ben Ali est parti. Mais si vous voulez, la personne qui est partie, mais le système est toujours là.
Le système est resté.
C'est-à-dire
ouais.
les mêmes notables sont là. Mmh. Et même l'actuel président de la République,
oui.
Aujourd'hui, Il a mis dans une position un peu, je dirais, un peu surréaliste. En fait, voilà un président qui parle en attendant, il parle en attendant d'être renversé, en attendant d'être contesté, parce que pour l'instant, il parle.
Mais c'est tout.
Il ne gouverne pas.
Non.
Il ne gouverne pas parce qu'il ne peut pas gouverner contre tout le monde. Sachant qu'il lui-même, si vous voulez, est le produit de ce système révolutionnaire né après 2011. Donc,
oui.
Il doit tout à ce système. Donc, objectivement, il ne peut pas gouverner contre tout le monde.
Et bien sûr que non. Donc, en fait, on pourrait dire aussi que sa légitimité, elle ne lui est que personnelle. Elle n'est pas globale, malheureusement.
Ben non, elle n'est pas globale. Ben, d'ailleurs, ça se voit dans le scrutin législatif.
Il y a
le premier tour, toute participation. 8 à 10%, je crois.
Oui, oui, c'est ça.
Ça dit beaucoup de choses sur leur ras-le-bol des Tunisiens, en fait.
Mais alors, quand, alors, bien sûr, apporter des solutions, on peut en discuter, bien évidemment. Mais en lisant votre livre, il y a des failles à tous les niveaux. Et pourtant, c'est un pays riche d'un tas de choses, d'une histoire, d'une culture. Vous dites que ces jeunes, effectivement, veulent partir. La population tunisienne, d'ailleurs, est très jeune. Et pourtant, que de talent, que d'envie aussi, que d'intelligence, qui a été flouée au pied de cette révolution sans le peuple. C'est ça qui est incompréhensible. C'est-à-dire qu'il y a tellement à donner, mais est-ce qu'un jour ce système qui est resté, Ben Ali est parti, mais avec lui il n'y a que lui qui est parti, pas son système, les réflexes sont restés. Est-ce qu'un jour, malgré tout, ça peut encore bouger?
Oui, bien sûr que ça peut toujours bouger, parce que l'histoire n'est jamais immobile.
Moi, j'ai l'impression que c'est pas fini. Vous voyez que
non, absolument pas. C'est pas fini. Mais si vous voulez, y a aussi un nouveau phénomène qui s'aggrave. C'est l'économie informelle, la contrebande. Cette économie informelle, si vous voulez, elle vient complètement saper, voire détruire ce qu'on peut appeler l'économie formelle, légale, etc.
Mais là, c'est l'économie souterraine.
Souterraine. Et donc, on a un nouveau phénomène, les nouveaux milliardaires, si vous voulez, nés après la Révolution, parce que ils ont le monopole de la... import-export informel, de la contrebande, etc. Je crois que le problème fondamental pour la Tunisie, c'est est-ce qu'on s'en sortira par la démocratie, par un jeu démocratique, ou par un autre idéal, une autre vertu que j'appellerais, moi, l'estime des siens, que je place sincèrement au-dessus de la démocratie.
L'estime de son pays et du peuple et des gens.
Bien sûr. Mmh. Et donc, quand on regarde attentivement l'état de l'éducation nationale, l'état de l'école aujourd'hui, c'est désolant. C'est triste, on a envie de pleurer. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération qui est complètement sacrifiée. Un niveau d'éducation médiocre qui pousse les élèves à quitter l'école, et puis à rêver d'une chose, encore une fois, c'est de partir ailleurs, fuir ce pays. Qui ne les estime pas.
Oui. Alors, ce qui est aussi assez dommageable, si on parle économiquement parlant, la Tunisie vivait beaucoup du tourisme aussi. C'était quand même un pays de cocagne, avec des belles plages, des paysages, avec des endroits magnifiques. Moi, je me souviens d'une randonnée comme ça dans le désert avec tous ces points, ces petits villages. Ça a fait beaucoup de mal aussi économiquement à la Tunisie, le fait que les gens viennent moins ou plus. Aussi, ils ont chassé quelque part aussi ceux qui pouvaient apprécier ce pays. Économiquement parlant, ça rentre en ligne de compte.
Oui. De toute façon, je l'ai constaté au mois de novembre à Djerba, il y a énormément d'hôtels fermés.
Ça, c'est une misère, ça. C'est vraiment...
Parce que le pays a été déserté. Mais il faut faut aussi se poser la question, une question simple, c'est-à-dire que pourquoi, à un moment donné, le tourisme devient un pilier de l'économie, alors que la Tunisie a quand même des terres fertiles.
Des ressources, a des ressources,
a des ressources, a des plaines fertiles.
Des cultures.
Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, on se retrouve à consommer une farine infecte, avec des baguettes et du pain sans goût, parce qu'on importe de la farine ailleurs, quoi, non, alors qu'on a la possibilité...
Oui. Il y avait des minoteries, il y avait tout ce qu'il fallait en Tunisie.
Oui, alors qu'on a la possibilité de cultiver des céréales, le blé, afin d'atteindre ce qu'on... l'autosuffisance.
Bien sûr.
Donc, il y a tout un ensemble de circonstances, de situations qui font que le pays aujourd'hui va vraiment très mal.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aussi, alors ça n'engage que moi bien évidemment, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment aussi qu'on a laissé tomber la Tunisie?
Oh ben oui, bien sûr, on a laissé tomber la Tunisie, parce que la Tunisie, c'est un petit pays.
Et puis parce que j'ai eu le sentiment qu'une fois que le problème de Kadhafi réglé, Ben Ali parti, on s'est dit, bon ben, les Tunisiens vont se débrouiller, c'est bon, c'est réglé. Et puis non, c'est à ce moment-là, justement, qu'il y avait besoin d'aide, de soutien, peut-être une forme de rééducation économique, sociale, financière, hein, des soutiens à tout niveau. Et c'est là, justement, j'ai l'impression que... on a fermé la porte, on s'est dit, ils vont se débrouiller. Moi, j'ai l'impression.
Oui,
c'est
mais
le sentiment.
On a fermé la porte parce qu'il n'y a pas. L'enjeu stratégique n'est pas.
N'est pas
de taille. Mm-hmm. Mais moi, j'ai envie de déplacer le problème. C'est-à-dire que le destin de la Tunisie doit être une préoccupation première des Tunisiens eux-mêmes.
Bien sûr. Se prendre en charge.
Oui, c'est-à-dire que la solution viendrait de l'intérieur, avec des femmes et des hommes.
Avec des volontés. Avec des volontés.
Oui, mais des femmes et des hommes patriotes qui gouvernent non pas pour eux et pour leur propre intérêt,
mais pour le peuple.
Pour le bien des pays. Oui.
Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
Aujourd'hui.
Vous ne sentez pas quand même qu'il doit y avoir des volontés, des gens qui ont envie, ils ne sont peut-être pas assez nombreux.
Ah oui, bien sûr, oui, mais de toute façon, il y a des talents partout, j'ai l'impression que ces talents, ces femmes et hommes honnêtes ont déserté, ont quitté le pays, donc confier le gouvernement du pays à des technocrates ou des politiques, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de... Est-ce qu'on a inventé un nouvel art de gouverner? Est-ce qu'on a des idées toutes neuves? Est-ce qu'on a un horizon et une démarche révolutionnaire pour... Ouais. Pour penser à cet élan, à ce souffle qui est né en 2011, c'est ça le problème.
Oui.
C'est ça le problème.
Mais en lisant votre livre, moi, je me disais que mais des gens comme vous, des intellectuels comme vous, qui n'ont pas qu'ils soient à l'extérieur, mais qui ont un regard, je dirais, objectif, honnête, lucide. Vous n'êtes sans doute pas le seul, mais des gens éclairés comme vous, la Tunisie a sans doute besoin de ce genre de choses aussi. J'ai senti au long du livre, votre analyse, elle est juste, elle est probante, elle est réelle. Et est-ce que la Tunisie, justement, n'a pas besoin de vos réflexions?
Ah ben oui, bien sûr. D'ailleurs, la culpabilité me saisit de temps en temps.
J'y ai pensé, mais j'ai pas osé le dire.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il y a une culpabilité, une certaine tristesse intérieure. Et d'ailleurs, pour vous et vos éditeurs, justement, je pars la semaine prochaine présenter pour la première fois le livre.
Oui.
En Tunisie,
ouais,
et puis je pense que
c'est
je...
Bien.
Moi, mon ambition aussi, c'est d'aller là-bas de temps en temps voir pourquoi d'une manière cyclique faire des conférences, parler aux miens. Oui, bien sûr, il y a une...
Et vous amènerez le...
Je me sens à la fois coupable et responsable.
Oui, vous amènerez le livre à l'actuel président?
Non. Peut-être il va le lire, j'en sais rien, mais...
Ah ben, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Mais alors, maintenant, est-ce qu'il saurait le lire tel qu'il est... est-ce qu'il comprendrait le message? Est-ce qu'il comprendrait, oui, vous voyez, l'approche, l'aspiration? Voilà, tout est la question.
Non, mais je ne sais pas si autour de lui, son entourage lit les livres sur la Tunisie ou pas. Je ne sais pas s'il a un entourage de lettré, sachant que je ne suis pas un conseiller du prince, mais je pense qu'à un moment donné, j'en sais rien. En tout cas, si tout se passera bien, le livre sera publié par une maison d'édition tunisienne pour qu'il soit accessible pas cher.
Oui, pour tout le monde, pour tous.
Aux lectures tunisiennes, même pour un étudiant. Ouais.
Et vous allez aller là-bas, le présenter, faire des conférences, expliquer, transmettre votre parole, votre regard. C'est important.
Oui, je vais. Ça va être une première la semaine prochaine.
Ah,
mais après, je pense qu'il y aura d'autres rendez-vous. Mais surtout, c'est ce livre, je l'ai conçu un peu comme une œuvre artisanale. C'est vraiment un tapis qui se déplie, en fait.
Oui, tout à fait.
Il se déplie parce que on ne peut pas comprendre les événements de 2011.
C'est un kaléidoscope de faits, d'histoires, de réflexions. Voilà, c'est...
Je pars de 2011 et donc je fais un retour en arrière du 19e siècle, le choc colonial.
Oui, tout à fait, oui.
Parce que le...
Mais c'est intéressant d'ailleurs, cet aller-retour entre hier et aujourd'hui, parce que bien souvent, hier permet de mieux comprendre aujourd'hui et de pouvoir envisager demain. Mais
je fais l'inverse, en fait, parce que je considère que le sens et l'essence même du passé se trouve dans le passé. Donc, notre présent... devient lisible et compréhensible quand on revient en arrière, qui est toujours un commencement, en fait.
Ouais. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « si tu ne te résous pas à quitter le passé, essaye de le recréer au présent ».
Ouais. D'ailleurs, beaucoup d'historiens s'excellent dans ça, oui.
J'aime beaucoup, voilà. Et c'est marrant parce que, c'est marrant, en lisant votre livre, cette phrase m'est revenue en mémoire. Voilà, c'est grâce à ça, comme quoi le cerveau et la mémoire, c'est quelque chose d'assez particulier. Vous avez des petites cases comme ça, c'est enfermé, vous ne savez pas, tout d'un coup, vous apercevez que vous savez telle chose. Et du coup, cette phrase, elle m'a accompagnée tout en lisant votre livre. Voilà, ça m'a inspirée en ce sens. Moi, ce que j'espère, c'est que, et c'est vrai que j'aimerais vous suivre avec ce bouquet en Tunisie, voir les gens, voir leurs réactions. Est-ce qu'après votre passage, alors je ne sais pas comment ça se passera, mais après votre passage en Tunisie avec votre livre, vous n'aurez pas envie d'écrire un papier, un livre sur la façon dont il a été reçu, les rencontres que vous allez faire? Ça va être fort aussi, ce moment-là, normalement, je le souhaite.
Ah ben mais moi je ne suis pas dans le... je m'occuperai de mon prochain roman, qui est déjà terminé. Donc
ah
là,
bon,
qui est déjà terminé,
d'accord.
Ouais.
Très bien.
Je vous l'enverrai avec joie. Bien
ah
sûr.
Oui, oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Oui, je pense que votre question est essentielle. Je pense que la réaction des lecteurs là-bas sera importante. Je suivrai ça de...
Ça aurait bien été une petite souris.
Avec attention, oui, bien sûr. Oui.
Est-ce que déjà... Le regard de votre entourage sur place, les proches, les amis, les journalistes, votre famille, ont le même regard sur vous, la même analyse, ou il y a des dissensions, des discordances au niveau de l'analyse, du point de vue?
Je pense que, en tout cas, pour celles et ceux qui l'ont lu, ce langage de vérité les a un peu secoués.
Ah, c'est bien.
Les a un peu... Surpris. au point de me demander est-ce que je n'ai pas peur. À chaque fois, je réponds toujours de la même manière. C'est-à-dire que je n'ai pas peur de dire la vérité. Parce que moi, je ne suis ni un conseiller du prince, ni un expert, ni un idéologue, ni un intellectuel, d'ailleurs. Je suis un écrivain qui accorde toute sa souveraineté aux mots et aux faits. À partir de là, il y a... Les craintes sont complètement évacuées.
Bien sûr. Mais c'est surtout que, aussi, ce qui est très fort, alors, le livre est, franchement, c'est intéressant, mais la conclusion est très forte aussi. Alors, je vais pas raconter pour les auditrices, auditeurs, mais c'est très fort.
C'est un travail sur les mots.
Oui, bien sûr.
Un travail sur les mots, en fait, c'est une histoire écrite à hauteur d'humanité.
Oui, tout à fait.
Donc c'est un travail sur les mots beaucoup plus qu'une pensée. Et d'ailleurs, ce dernier mot me renvoie à ce qu'écrit Julien Gracq dans « Nœud de vie », un livre posthume. Il y a cette phrase merveilleuse, « La pensée tue tout ce qu'elle touche.
Oui. »
La pensée immobilise. Oui. Et c'est vrai que beaucoup de livres... qui ont été écrits sur le printemps arabe, sont des livres, je dirais, orientés. Mmh. Il y a toujours la question identitaire
Bien
qui
sûr,
est là,
complètement, oui.
en filigrane. Il y a toujours cette question de l'islam politique, qui est pour moi une aberration conceptuelle.
Complètement. Ouais.
Parce que j'ai beau la chercher dans la langue arabe, dans l'immense bibliothèque arabe classique, elle est inexistante. Et donc, si vous voulez écrire un livre affranchi de toutes ces chaînes et de tous ces concepts qui immobilisent, ça va prendre du temps.
Ah oui.
Ça prend du temps parce que... Il y a encore une fois, il y a toujours cette histoire d'islam politique. Et d'ailleurs, s'agissant de cet aspect-là, j'ai toujours dit, est-ce qu'un parti politique de tendance islamique, un parti islamo-conservateur, comme on dit, est-ce qu'il a le droit à participer au jeu démocratique?
Ça, grande question.
Oui, bien évidemment. Oui, bien évidemment. En revanche, est-ce qu'on a besoin d'un parti politique pour devenir des bons musulmans? La question, c'est niet.
Bien sûr que non. Bien sûr que non. En tout cas, c'est un livre qui amène à la réflexion, à la pensée, à l'idée aussi. On a envie que la Tunisie avance. Un printemps sans le peuple, c'est aux éditions Passé Composé. J'aurais bien discuté encore avec vous encore autant de temps, mais voilà, il faut savoir se quitter. Je vous remercie infiniment, Saber Mansouri.
Merci à vous et au prochain livre.
Oui, je vous souhaite plein de bonnes choses en Tunisie en espérant que ce livre puisse toucher et que les choses avancent très sincèrement pour ce pays, ce beau pays et ces gens si attachants et ce pays que personnellement j'aime tant et je sais que je ne suis pas la seule. Voilà. En tout cas, votre prochain livre, n'hésitez pas à me l'adresser, ce sera avec grand plaisir que je le recevrai.
Oui, vous m'enverrez par texto l'adresse.
Oui, ça marche. Ok, voilà. C'est promis. Merci beaucoup. Un printemps sans le peuple aux éditions Passé Composé avec Saber Mansouri. Merci et à très bientôt.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Voilà. J'espère que cette interview vous aura plu. Moi, j'ai eu grand plaisir à discuter avec Saber Mansouri. Je vous enjoins à toutes et toutes de vraiment le lire et puis de mieux comprendre. Et ce sera une façon aussi d'aider la Tunisie. À très bientôt. Bon dimanche et à une prochaine fois.